Bonjour et bienvenue sur le podcast L'étudiante de ton open space, les podcasts sur la vie étudiante, les stages et l'alternance. Ce podcast est la version audio d'une vidéo YouTube qui s'appelle Les études en communication, ce qu'il faut savoir. Et la vidéo est disponible en version podcast sur Spotify et iTunes. Je vais vous parler de la rémunération, des métiers qui sont porteurs et qui sont très recherchés, qui payent bien, et puis des métiers à contrario qui sont un peu en train de mourir ou en tout cas moins recherchés. Je vais vous parler évidemment des matières utiles qu'il faut rechercher dans les programmes des écoles qui vont vous aider quand vous arrivez sur le terrain. Et en dernier, de la différence entre faire ses études à Paris et faire ses études en province. Donc c'est parti, alors je vais commencer par dire déjà la grosse différence que j'ai remarquée donc, dans toutes mes études entre la province et Paris. Donc il y a beaucoup de personnes, je le sais, qui font leurs études de communication en province et qui espèrent après venir travailler sur Paris par exemple, ou qui doivent faire un prêt pour pouvoir monter sur Paris et vivre à Paris tout en faisant leurs études. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde et ça concerne tous les étudiants, même si vous n'êtes pas étudiant en communication. Si j'ai compris quelque chose, si j'ai appris quelque chose, c'est que la localisation de l'école est super importante. C'est pas plus important que ce qu'on apprend, mais c'est aussi important. Autrement dit, en fait, l'avantage que tu as quand tu vas dans une grande ville, quand tu vas à Paris par exemple, ou à Lyon, ou à Lille, c'est que tu rencontres des étudiants qui viennent de partout. Des étudiants qui vont sûrement après rentrer dans leur ville ou rester dans la grande ville. Mais en tout cas, tu te fais en fait un réseau beaucoup plus global et beaucoup plus national et ça m'a beaucoup aidé. Contrairement à Paris où c'est vrai que dans les écoles parisiennes qui sont très bien, il n'y a pas de souci avec les écoles à Paris, c'est que en fait la plupart du temps si tu rencontres des gens, ils viennent de Paris ou de banlieue. Il y en a aussi qui viennent de province, mais on va dire que c'est un quart ou un tiers. Et en fait, pour moi en tout cas, la limite, c'est que finalement, ces personnes sont des personnes qui soit ont la volonté d'aller à l'étranger après, de faire des VIE, des VIE, c'est quand tu es embauché par une entreprise française pour aller travailler à l'étranger, donc tu es payé comme un Français, mais à l'autre bout du monde en Australie, ce qui est très cool. Soit ceux qui sont à Paris ont prévu de rester à Paris et d'y rester pendant longtemps. Donc c'est pas des personnes qui bougent beaucoup, on va dire. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que de mon expérience à Lille, j'avais rencontré des personnes beaucoup plus différentes et beaucoup plus, la constitution, on va dire, des classes et des groupes était beaucoup plus hétérogène, beaucoup plus variée. C'était beaucoup plus enrichissant finalement d'être avec des personnes qui venaient de partout en France plutôt que juste avec un peu le même groupe, même milieu sur Paris. Donc pour répondre à la question qu'on m'a quelquefois posé, est-ce qu'il faut monter sur Paris ou est-ce qu'il faut rester là où je suis et faire mes études? Franchement, je peux pas choisir pour vous, évidemment, je peux que vous conseiller, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée de rester dans sa ville, même si c'est une petite ville, pour faire ses études. Par contre, je pense vraiment qu'après, il faut aller dans une grande ville, au moins Paris, pour travailler, pour commencer, parce que les salaires sont plus élevés, donc déjà, ça va vous mettre un standard minimum pour vos prochains jobs après. Autrement dit, si tu commences à Paris avec 2000 euros par mois, si après tu reviens en province, tu pourras au moins prétendre à un salaire supérieur. Et du coup, bah, il n'y a pas que Paris évidemment, parce que j'en parle parce que c'est ce que je connais, mais il y a aussi Lille, il y a des grosses boîtes qui ont leur QG à Lille, je pense à Cheers, je pense à Decathlon qui recrutent beaucoup, je veux dire. À Bordeaux, il y a Cdiscount et j'en oublie plein, donc on n'est pas obligé d'aller à Paris, c'est juste que les salaires sont vraiment plus élevés à Paris et on voit directement la différence. Et après, vous pouvez aussi, pour continuer dans cette idée de rester bien chez soi, entre guillemets, vous pouvez rester dans la ville à côté de chez vous et puis avoir votre expérience à côté. Donc faire des petits jobs qui vont vous permettre en fait d'être plus crédible quand vous commencerez à travailler. Par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, rien ne vous empêche d'aller à des mariages, de faire des photos pour des mariages, de participer à l'organisation, de proposer votre aide gratuitement à des wedding planners qui sont dans votre région ou dans la ville à côté où vous pouvez aller en voiture rapidement pour leur dire voilà, moi j'ai vraiment envie d'apprendre donc j'aimerais juste les week-ends t'aider dans ce que tu fais et je connais pas beaucoup
d'entrepreneurs, ou en tout cas de petites entreprises qui refuseront d'avoir une aide gratuite. Enfin, moi, en tout cas, je ne la refuserai pas, clairement. Donc, je pense que vous pouvez toujours demander à des gens si vous pouvez les aider. Comme ça, vous apprenez de leur expérience. Il n'y a pas besoin d'aller à Paris, à Lyon, dans une grande ville pour avoir de l'expérience, je pense. Mais ça, c'est que au début de la carrière. Ça n'enlève pas tout ce que j'ai dit avant. Donc voilà pour la comparaison Paris vs province. Je peux évidemment pas garantir à 100% que j'ai raison et que c'est sûr et que vous pouvez pas vous tromper. Mais en tout cas, l'expérience m'a montré que c'est beaucoup plus facile de commencer à bosser à Paris, mais qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait ses études ici pour autant. Ensuite, la deuxième partie, c'est les matières qui m'ont été les plus utiles. Donc clairement, je ne vais pas faire tout le bilan de chaque matière, etc. Je vais vous en dire trois qui vraiment, pour moi, ont fait la différence et qui sont des matières que j'aurais recherchées. Enfin, si je devais revenir en arrière, en tout cas, je rechercherais ces matières dans un programme d'école de communication. Donc, la première, c'est tout ce qui est PAO. Donc PAO, c'est la publication assistée par ordinateur, c'est Photoshop, InDesign, Premiere Pro qui est pour le montage vidéo, After Effects, etc. C'est pas les cours les plus marrants parce que c'est pas facile. Il faut beaucoup de temps pour apprendre et pour comprendre comment ça marche et les outils, et chaque logiciel est différent. Mais je vous promets que dans, allez, 7 ou 8 fiches de poste sur 10, on demande des notions en PAO aujourd'hui dans la communication. Surtout si vous voulez avoir un poste, on appelle ça 360, c'est en fait qui touche un petit peu à tout. 360 dans le sens où tu vas faire de l'événementiel, du digital, du média, des réseaux sociaux, du marketing digital du coup. Voilà, tu touches un petit peu à tout. Pas forcément pour tout faire vous-même, mais au moins pour pouvoir briefer et demander, en fait, gérer vos équipes et leur demander des choses concrètes et savoir en fait ce que chaque ce que chaque personne peut apporter, ce qu'un graphiste peut apporter, ce qu'un monteur vidéo peut apporter, etc. C'est une richesse énorme de savoir utiliser la PAO. Voilà. Ensuite, une autre matière qui m'a beaucoup aidée, qui je pense est en train de devenir de plus en plus, qui prend de plus en plus de place dans les écoles et les formations de communication, c'est, et les écoles de commerce aussi, c'est tout ce qui est UX design. Donc UX, c'est l'expérience utilisateur, vous le savez peut-être déjà. En gros, c'est quand tu crées un site internet ou une app, comment tu vas tout mettre en place pour que l'utilisateur ait le moins d'efforts à faire, que tu trouves tout facilement, que la navigation soit agréable pour qu'il ait envie de revenir sur le site. Et donc j'ai eu un ou deux cours du UX design, j'ai rien compris, c'était intéressant mais c'était vraiment pas mon truc parce que je préfère clairement, voilà, plus la communication visuelle, les médias, etc. Donc l'UX, c'était, je sentais que c'était pas pour moi, je sentais que ce serait pas mon métier. Mais en tout cas, cette matière est très demandée aujourd'hui et ça aide en entreprise de dire qu'on a des notions de UX design, voilà. Et la dernière matière qui m'a le plus servi, j'ai du mal à le formuler, mais c'est tout ce qui est stratégie de contenu. En fait, quel message tu vas passer, comment tu vas l'écrire, le formuler. C'est plein de métiers en un, c'est en même temps le métier de directeur artistique, en même temps le métier de concepteur-rédacteur, en même temps de rédacteur, de chargé de relations presse qui fait tous les communiqués de presse, etc. Vraiment, en fait, cette idée de savoir passer un message, comment tu le passes, à qui tu t'adresses et adapter en fonction de ça. Donc, ça peut paraître très simple si vous êtes de nature assez... Enfin, si vous avez la communication facile, si vous savez comment vous exprimer, si vous savez vous adapter à la personne en face. Autrement dit, je parle pas de la même manière à mes parents, qu'à mes profs, qu'à quelqu'un dans la rue. Mais par contre, si vous êtes plus dans la cash, on va dire, cash, brut de décoffrage, donc qui est quelqu'un qui est souvent un peu sur la défensive, qui va, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est plus qui fait un peu attention à tout, qui s'exprime, qui communique pas facilement, ces cours sont hyper importants. Et souvent quand je vois des amis qui veulent se lancer en freelance ou qui veulent aller travailler à l'étranger, ou moi-même qui essaye de créer une entreprise ou une association en ce moment, Je me rends compte à quel point c'est important d'être clair sur comment on va s'adresser aux gens, quel est le message, quel est le ton. Enfin voilà, tout cet aspect communication qui est la première question que tu te poses quand, peu importe ce que tu fais d'ailleurs comme métier, la première en tout cas dans la com. Donc voilà les trois matières qui m'ont servi le plus. Donc si vous êtes encore dans une étape où vous cherchez dans quelle école aller, si vous êtes encore au lycée, quelle option choisir pour votre bac, etc. Sachez que le plus important, c'est vraiment les matières techniques. Donc les bacs pro, les bacs MCMG par exemple sont bien pour ça. C'est vraiment les matières techniques qui vont vous aider après concrètement à arriver rapidement sur le terrain, à être efficace. En communication, je pense que ce sera le mieux pour évoluer rapidement. Par contre, si vous voulez, si vous avez plus des ambitions de manager, enfin de commencer directement en tout cas en tant que manager, là, les écoles plus générales de commerce sont mieux parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de fiches de poste où ils recherchent des personnes d'écoles de commerce pour des métiers de communication parce qu'ils ont en fait un profil très large et ensuite ils se spécialisent dans la communication dans leur master. Je trouve ça super injuste parce que j'ai fait de la com. Je sais qu'on est hyper compétent, qu'on sait faire les choses, mais je le vois donc je vous le dis. Souvent, on va privilégier quelqu'un qui a fait une école de commerce. Mais c'est aussi par rapport à la rémunération, vous serez payé beaucoup plus en ayant fait une école de commerce parce qu'elle coûte plus cher, qu'elles sont plus renommées, etc. Donc voilà, pensez à ça aussi avant et renseignez-vous. Et si vous avez des questions, demandez-moi sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre voilà, au niveau de ce que je connais et je pourrais pas inventer ou faire les recherches pour vous. Mais si y a une question, si vous aimeriez que j'approfondisse un point, dites-moi sur Instagram et on en discute, il n'y a pas de souci. La dernière année d'alternance que j'ai faite, j'avais un poste où au départ ils cherchaient quelqu'un qui était en école de commerce. Et même si j'étais pas, j'ai eu le poste. Donc je vous rassure, rien n'est impossible et aucune porte n'est fermée. Tant que vous travaillez, que vous êtes sûr de vous, je pense que vous pouvez vraiment avoir la même chose que les autres. Vraiment. Donc voilà pour les matières qui m'ont été les plus utiles. Et du coup, logiquement, je voulais vous dire un peu quels sont les métiers qui découlent de ces matières. Les métiers qui, pour moi, sont ceux qui vont le mieux payer, qui sont ceux qui sont les plus recherchés et où on a vraiment voilà, du poids pour le recrutement. On a du choix, on peut aller un peu dans le secteur ou l'entreprise qu'on veut, etc. parce qu'ils en chercheront toujours. Tout ça dans la communication. Je pourrais faire une vidéo, si ça vous intéresse d'ailleurs, des métiers émergents en dehors de la communication, donc vraiment toutes études confondues. J'en parle parce que déjà il y a plein d'articles sur ça, donc je pourrais faire des recherches, mais aussi parce que je vois dans mes potes qui sont, que ce soit en médecine ou plus dans la finance, il y a des métiers qui étaient avant très bien rémunérés, qui sont moins recherchés. Parce qu'il y a de plus en plus de logiciels qui le font, parce qu'il y a de plus en plus de start-up et d'autres entrepreneurs qui le font à leur place. Il y a des métiers qui sont beaucoup moins connus et qui seront de plus en plus demandés. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai cette vidéo avec grand plaisir. Donc les métiers émergents. Donc logiquement, ça découle des matières dont je parlais juste avant. Il y a le métier de UX designer. C'est hyper demandé, recherché dans toutes les nouvelles startups, tout ce qui est fintech. Fintech, c'est financial technology, donc c'est Lydia, PayPal, etc. C'est la fintech, c'est l'avenir puisque c'est en fait toutes les technologies qui vont faciliter les échanges d'argent, de monnaie et qui vont en fait, je pense, exploser, qui explosent déjà maintenant mais qui vont encore plus exploser dans les années qui viennent. Et pour moi, en tant qu'utilisatrice de Lydia et PayPal, ce qui fait la différence quand je vais sur le site ou sur leur app, c'est vraiment l'expérience utilisateur. C'est hyper simple, je navigue facilement, les onglets sont clairs, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi. Et ça, c'est un UX designer qui a pensé à ça pendant des mois de projet pour le mettre en place. Et donc, c'est un métier qui est très recherché parce qu'il y a de plus en plus d'apps et que les utilisateurs, nous, on est de plus en plus exigeants. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il y a des métiers qui sont aujourd'hui, en fait, qui se développe parce qu'ils s'adaptent à nos nouveaux modes de consommation et modes de vie. Donc des métiers qui étaient très bien vus avant, qui étaient un peu réputés, etc. Ils vont pas mourir, mais ils vont être plus prestigieux, mais beaucoup moins recherchés que ces métiers-là. Ensuite, il y a le métier de product owner. Que j'ai découvert donc dans mes études puisque j'avais un parcours plus digital. En fait, le product owner, pour vous expliquer clairement et très simplement ce qu'il fait, c'est la personne, quand on va développer un nouveau site ou une nouvelle application dans une entreprise, c'est la personne qui va aller chercher tous les contacts et qui va demander à telle personne de faire ça, à telle personne de faire ci, et qui va être un peu le chef d'orchestre pour développer ça, et on appelle ça la méthode agile. Vous en avez peut-être entendu parler, on en parle beaucoup en ce moment, mais en fait ça fait 30 ans que ça existe, ou 40 ans. J'ai des collègues qui ont 60 ans là où je bosse actuellement, qui bossaient déjà en agile il y a 40 ans, c'est juste que ça s'appelait pas comme ça. Mais aujourd'hui on a donné un nom à cette méthode, donc c'est de dire, au lieu d'avoir une équipe dédiée qui fait un site, en fait, on va avoir plein d'équipes qui sont des spécialistes, des experts dans leur domaine, et on va les appeler une fois pour constituer une équipe, une dream team, on va dire, pour faire le job. Et donc, le product owner, c'est différent du product manager, puisque le product manager, c'est, on va dire, le chef de produit, donc qui fait le marketing, qui fait la stratégie, voilà. On va lancer un nouvel Oreo à la cacahuète, on va le vendre comme ça, on va le positionner. Il sera à tel prix, ça c'est vraiment le product manager, c'est le chef de produit, donc dans les commerciaux. Alors que le product owner, il est plutôt dans la partie développement. Et il est dans une agence, il est entre le client et la fonction interne. Donc souvent, c'est quand même un chargé de clientèle, voilà. C'est un peu le nom fancy pour un chargé de clientèle qui fait aussi toute la mise en place du site, les développeurs. Donc voilà, il va appeler l'UX designer, il va lui dire voilà, tu bosses avec tel développeur, vous mettez d'accord sur la page d'accueil et ainsi de suite. Et comme vous le savez, il y a de plus en plus d'entreprises en ligne, dans les pure players qui n'existent qu'en ligne, Netflix, Amazon, etc. Il y en a de plus en plus, donc tous ces métiers de construction d'applications, d'expertise au niveau digital, en fait, vont se développer parce que bientôt ils représenteront la majorité des business finalement. Donc il faut être bien placé et être prêt sur le moment. Quand on les recherchera, il faut être là. Donc si vous savez pas quoi faire, renseignez-vous sur ces métiers, vous regardez peut-être les qualités, défauts qu'il faut, les compétences, si ça vous parle, renseignez-vous. Mais voilà, je le conseillerais à ma petite sœur, en tout cas, si elle devait s'orienter maintenant et qu'elle savait pas ce qu'elle devait faire. Ensuite, le troisième et dernier métier émergent que j'ai identifié dans la com, c'est tout ce qui est communication 360, donc j'en parlais un peu avant. En fait, la communication 360 dans une petite structure. Donc il y a de plus en plus de startups aujourd'hui, de plus en plus d'auto-entrepreneurs, et ces personnes, soit elles vont recruter quelqu'un qui va faire leur com, qui va s'occuper de tout, soit elles vont avoir des freelances, des prestataires qui vont faire une agence de communication pour eux. Donc je vais m'expliquer, parce que c'est un peu, c'est très simple, mais c'est un peu technique, quand on connaît pas trop le monde du travail, on va dire. En fait, quand on est dans une grosse entreprise, comme j'ai pu l'être à Disney, il y a les ressources humaines, il y a les personnes qui s'occupent du merchandising, les personnes qui s'occupent de construire les attractions, les personnes, donc les engineers, on les appelait, les personnes qui sont dans les relations presse, donc qui vont faire venir tous les reporters et tous les journalistes sur le parc pour leur montrer voilà les backstage, voilà ce que vous pouvez dire et pas dire, etc. Moi j'étais dans la partie marketing au sens d'activation, d'audience et de contenu, donc c'était le média, donc acheter des pubs à la radio, à la télé, l'affichage, faire une stratégie dans tous les pays d'Europe, etc. Et en fait, dans ces grosses entreprises, tout est hyper segmenté, hyper en silo, et on le voit très vite quand on fait des stages, nos premiers stages, on se rend compte que voilà, c'est chacun son travail, voilà. Mais avec l'évolution là qu'on est en train d'observer, et l'explosion des startups et des auto-entrepreneurs, et etc., de l'instaprenariat même si l'instaprenariat est un peu polémique, c'est les entrepreneurs sur Instagram qui font une boutique en ligne sur Insta, etc. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui recherchent quelqu'un qui va faire toute leur com, et les relations presse, et le média, et les contenus, et le blog, et les réseaux sociaux, qui va tout faire. Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, en tout cas quand ils se lancent, les startups, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 10 000 personnes qui bossent sur plein de choses différentes. Ils ne peuvent pas les payer, tout simplement. Donc je pense que vraiment, ce métier de communicant 360 va être ou est déjà de plus en plus recherché, parce que souvent, quand on sort d'école, même si on manque d'expérience, en fait, on peut déjà prendre en charge un auto-entrepreneur, ou une petite start-up, ou être dans une agence et faire ça. Donc voilà, c'est un métier un peu aussi autant de junior que d'expert. Donc, si vous sortez de vos études et que vous voulez trouver un petit job dans une start-up, ça va être compliqué si vous n'avez pas une expérience avant. Donc, j'irai d'abord dans une agence pour faire mes armes, entre guillemets. Et puis ensuite, vous pouvez, au bout de 3, 4 ans, avoir l'expérience nécessaire ou beaucoup moins pour certains. Il y a des génies qui, en 2 ans, sont déjà responsables communication d'une start-up et qui sont très chauds. Mais vous pouvez, au bout de quelques années, en fait, prétendre à ce poste où vous aurez souvent, soit vous serez tout seul à tout faire en fait, soit souvent il y a un stagiaire ou un alternant qui travaille avec vous. Donc c'est vraiment un statut de cadre. Donc voilà pour moi les trois métiers qui vraiment sont l'avenir dans la communication. Il y en a d'autres évidemment, je pourrais faire une partie 2 si ça vous intéresse, mais je pense que ceux-là il faut les avoir dans un coin de la tête quand on commence ses études. Et je vous mettrai en barre d'infos une liste des métiers, parce qu'en fait j'avais préparé cette vidéo depuis quelques jours et juste avant de filmer je lisais stratégie.fr et j'ai vu qu'ils ont fait un article sur les métiers de la com qui recrutent, donc il y en a une dizaine. Allez les voir, je les ai pas tous lus encore, mais allez les voir et je pense que c'est très intéressant. J'ai déjà vu Product Owner par exemple, donc je pense que ça pourra vous donner une idée plus précise des différents métiers et vous aider à vous positionner dans ce que vous voulez faire et du coup savoir quelle école rechercher, etc. Donc après avoir parlé des métiers qui portent, je vais vous donner mon avis honnête et sincère sur les métiers qui pour moi sont complètement bouchés. Donc dans les métiers bouchés, je vais devoir mettre tout ce qui est influence, chargé d'influence, stratégie d'influence, etc. Je vais m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Je dis pas que l'influence est morte, puisqu'il y a plein de personnes, ça recrute. Je dis pas que ça n'existe pas. Ce que je remarque en fait, c'est que les personnes qui sont chargées d'influence aujourd'hui, leur seule valeur ajoutée, c'est pas de savoir gérer un projet, c'est de connaître les réseaux sociaux et de connaître qui sont les influenceurs qui sont intéressants. Mais ça, finalement, c'est pas un métier pour moi. Pour moi, il suffit d'être assez actif sur les réseaux, assez actif sur Insta, avoir téléchargé et Musical.ly, avoir téléchargé... c'est pas Musical.ly d'ailleurs, c'est... Il suffit d'avoir téléchargé, enfin d'aller régulièrement sur YouTube, de voir les tendances, d'avoir téléchargé Instagram, de voir qui sont ceux qui reviennent le plus dans l'Explorer et on a une idée, et de le faire régulièrement et on a une idée, voilà, des influenceurs dans tel secteur, dans tel domaine, on va dire, qu'on peut activer. Donc pour moi, et je le dis sans, du coup, sans arrogance ou quoi que ce soit, pour moi c'est pas un métier, c'est une compétence qui en fait s'inscrit dans un métier. Et du coup je pense que le métier de chargé d'influence, c'est en fait un chef de projet qui a une affinité avec l'influence. Donc je pense pas que ce métier soit vraiment amené à être aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre métier que je vois de plus en plus dans ma classe. En fait, j'étais dans une classe où on était tous en alternance cette année et l'année d'avant pour mon master. Donc pendant 2 ans, j'ai vu en fait ceux qui avaient le plus de facilité à trouver et ceux qui vraiment galéraient ou qui avaient du mal à rester dans l'entreprise parce que en fait, les jobs sont très vite coupés. Ça ne marche pas ou quand on n'a pas les clients, c'est souvent les premiers jobs qui sautent. Et l'un d'entre eux, c'est tout ce qui est rédaction d'articles, de contenu. Donc attention, parce que il y a une tendance dans la com qui dit que le contenu est en train de se développer, qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent, etc., des histoires, raconter des histoires en fait, le storytelling, je le crois. Mais par contre, le métier de rédacteur dans une entreprise, il est de plus en plus limité. Quand je dis ça, c'est par exemple, vous êtes chargé de communication digitale et vous avez un blog ou un magazine à alimenter, vous n'allez pas vraiment rédiger des articles vous-même. Souvent on va faire appel à des rédacteurs en freelance ou on va faire appel à des agences qui vont s'en occuper pour nous. Donc le métier est plus aussi porteur, puisqu'il y en a, c'est beaucoup externalisé. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus, il y en aura en agence ou en freelance, mais en tout cas en entreprise, si vous voulez avoir vraiment cette stabilité ou si vous cherchez un job qui va être très recherché, je pense que ça, il faut un peu C'est une aptitude en plus, mais ce ne sera pas un métier central. Voilà. Si vous avez d'autres métiers en tête que vous connaissez, dites-le en commentaire pour les autres et pour moi, s'il vous plaît, pour savoir si vous avez remarqué que vous cherchiez tel métier et que en fait ça ne recrutait pas. J'avais envie de dire chargé d'événementiel aussi parce que c'est aussi, je me base sur mon expérience et c'est pas forcément la vérité, mais au niveau de l'événement, c'est vraiment très compliqué de trouver un poste. Enfin, c'est très compétitif en fait. Ça veut pas dire qu'on les recherche plus et que c'est très compétitif. Voilà pour les métiers qui sont en train de mourir dans la com. Et en dernier, je vais vous parler donc de la rémunération. Je vais vous dire combien je suis payée actuellement. Donc en fait, j'ai fait donc 2 ans d'alternance et j'ai été payée d'abord 1000 euros dans mon ancienne entreprise et maintenant 1500 euros dans... j'ai choisi en fait volontairement une entreprise qui est dans un grand groupe bancaire puisque je savais que c'était un secteur qui paye et qui paye bien. Et du coup, en tant qu'alternante, je vois même d'autres alternants qui sont dans des grandes écoles. Il y a un gars avec qui je m'entends très bien qui est à l'ESSEC, qui est une des grandes écoles en France et qui a 2000, presque 2000 euros en alternance de salaire, ce qui est énorme. Si vous avez fait une alternance, vous savez que c'est énorme. C'est presque 2 fois ce qu'on paye dans les autres entreprises. Donc, pourquoi je vous parle de ma rémunération? Parce que pour moi, c'est quand on est en alternance et quand on est en stage, c'est super important et ça joue beaucoup sur comment on s'organise en dehors du taf et du coup de l'énergie qu'on peut donner après. Donc par exemple, si vous êtes en alternance, que vous êtes payé très peu et que vous savez qu'à côté, il faut que vous travailliez les week-ends ou que vous fassiez des petits business à côté, on va dire, je sais à quel point ça peut être hyper frustrant d'avoir un salaire inférieur. Et donc moi, j'ai volontairement, quand j'ai cherché une nouvelle alternance il y a 1 an, je savais que j'allais être sur Paris, que j'allais emménager avec mon copain, je savais qu'il fallait du coup payer un loyer et j'ai volontairement choisi un secteur qui paye. Et donc dans les secteurs qui payent, de ce que j'ai entendu autour de moi, vous avez évidemment la banque, vous avez les énergies, donc Total, EDF, etc., qui s'appelle Engie maintenant d'ailleurs. Vous avez aussi justement les nouvelles startups et les nouvelles fintech, etc., qui vont pas payer aussi bien que les grosses boîtes, mais qui quand même rémunèrent bien parce qu'ils peuvent se le permettre. Souvent, ils ont fait des levées de fonds, ils ont 1 million à dépenser, ils sont là, ils peuvent payer. Et le dernier que j'ai vu autour de moi, je dirais que c'est le conseil, donc c'est toutes les agences qui vont aider les entreprises sur leur stratégie. Les agences de conseil, c'est ce qui paye le mieux et aussi en alternance, enfin pas en alternance, en stage quand ils en prennent. Donc je pense aux gros groupes Accenture, Capgemini, il y en a plein d'autres qui sont peut-être même mieux. Mais ça, c'est les plus gros. Ils payent extrêmement bien, mais il faut avoir vraiment un poste, on a un poste important et très compliqué. Donc c'est aussi... ça justifie clairement qu'on ne se tourne pas les pouces, quoi. Ça justifie qu'on soit aussi bien payé quand on est dans ce genre d'entreprise. Et voilà, donc au niveau de la rémunération, je pense que c'est important d'y penser. C'est important de savoir que ce qu'on vous propose, évidemment, soit on accepte, soit on refuse, mais vous pouvez toujours trouver mieux ailleurs. Et donc prenez le temps, quand vous cherchez un stage, une alternance, un job, de vous y mettre à l'avance pour pas accepter n'importe quoi. Je me suis retrouvée dans cette position-là et c'est vraiment pas agréable, donc... voilà, pensez à ça avant de postuler. Donc voilà, je vous en ai dit un peu plus sur mon poste en alternance. Vous pouvez aussi voir ma vidéo sur ma lettre de motivation à Disneyland Paris. Donc je vous montre, voilà, concrètement comment je rédige ma lettre, comment je m'organise pour envoyer les candidatures et donc les compétences que je mets en avant en fonction du métier. Voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche parce qu'il n'y en a pas souvent. Donc vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo et à très bientôt. Voilà. Fin de la vidéo. Salut.
Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que la qualité audio vous convient un peu mieux que le précédent et je vais continuer d'essayer de m'améliorer et je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.